Au fond, vous nous faites un exposé un peu méthodologique sur quelles sont les bonnes recommandations pour faire un plan climat. Et en même temps, moi, je suis un peu frustré parce que je me dis, mais ce que vous dites là sur les plans climat, en fait, c'est on pourrait le dire sur n'importe quel type d'exercice de planification territoriale. Quoi. Et du coup, moi, je me disais quand même, est-ce qu'on peut pas avoir des visions un peu plus précises des problèmes qui ont été soulevés à l'occasion du plan climat barrois et du plan climat parisien, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été trouvé comme enjeu au moment du diagnostic, comment ça a été discuté, comment ça a été partagé, qu'est-ce qui a été proposé comme action, même si on est plutôt sur des plans patrimoniaux, effectivement, comme vous dites, que sur des plans territoriaux, je trouve que c'est une distinction très intéressante, mais néanmoins, qu'est-ce qui s'est dégagé comme champ d'action, comme possibilité d'action, comme maîtrise d'ouvrage? Alors, sur la ville de Paris, c'est plus évident. On a la commune de Paris, évidemment. Enfin, la ville de Paris, excusez-moi. qui est commune et département. Bon. Qui est maître d'ouvrage. Effectivement, après, sur... ces plans climat, ils ont été faits quand? Et est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis? Racontez un. Oui,
C'est bien pour ça qu'il n'y a pas été.
Est-ce que vous pouvez pas. Pardon, Christina, excuse-moi, je termine.
Oui, mais on a fait une partie comme ça, oui. Stabilité sociale et économique, de deux exemples concrets. Oui. Sauf que je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été présentés.
Eh bien, alors.
Je peux te les présenter en 10 minutes.
Ben, par exemple, oui, moi, je trouve que ça serait intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
C'est plus concret, mais ce n'est pas exhaustif du tout, mais ça donne des exemples sur.
Les problèmes posés, les maîtrises d'ouvrage et les types d'actions, effectivement, l'acceptabilité sociale. Moi, c'est un peu ça que je verrais. Et éventuellement, des questions financières, voire...
C'est dans les rapports qu'on a fait, et c'est la partie qu'on avait fait, si tu veux, en 10 minutes, parce que
c'est pas exhaustif. En plus, c'est un exercice qui n'était pas facile, parce que l'acceptabilité sociale et économique de ces plans climat territoriaux, comme il n'y a pas grand-chose dans ces plans climat territoriaux d'imposition, mais en fait, c'est pas très dur à accepter. C'est vrai qu'on n'impose pas tout ça. Si demain, par exemple,
c'est rien.
Vous pouvez imaginer que l'acceptabilité.
C'est bien pour ça qu'on n'a pas été au bout.
Que ce soit un peu plus compliqué. Je prends un exemple qui n'est pas faisable, mais comme il n'y a pas d'imposition comme ça, les gens sont assez loin de cette problématique-là. Il y a des groupes de travail qui réfléchissent, mais ils n'impactent pas directement sur la population au quotidien. Et aujourd'hui, pour les gens, peut-être dans la Paris ou dans les parois, on a vu dans la lecture qu'on a pu faire, on imaginait qu'ils n'étaient pas totalement impactés, ils étaient totalement sensibles.
Alors, Vincent, Antoine, tu... Christophe, pardon, excuse-moi. Oui, excuse-moi.
Presque quoi. Juste pour revenir sur ce que... Sur l'acceptabilité sociale, c'est vrai qu'on dit on n'impose rien, mais l'exemple donné tout à l'heure par Jacques sur 2050 avec la consommation d'énergie, les coûts, etc. On ne peut pas obliger les gens à faire leurs travaux dans la maison. On a dit que c'était 51% du parc, 55% du geste, etc.
Simplement,
un jour ou l'autre, la question va se poser, tu as évoqué ce que représentait sur un budget moyen l'énergie, etc. À un moment, la question se pose, c'est que si les gens n'interviennent pas sur leur maison, le coût va augmenter. Et là, effectivement, il y aura des difficultés parce qu'on sait que l'énergie va augmenter. Et c'est là qu'effectivement, l'acceptabilité sociale pourrait être difficile. Aujourd'hui, sauf à faire prendre conscience aux gens en leur disant, les gaz à émission, etc., c'est ça. Vous êtes responsable quelque part parce que vous avez une maison individuelle qui consomme trop d'énergie. Aujourd'hui, vous avez un budget moyen pour l'énergie qui représente tant par mois. Et là, effectivement, si vous ne faites rien, si vous n'intervenez pas sur les travaux de votre maison, à l'horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans, on sait que l'énergie va augmenter. Et là, effectivement, si vos revenus n'augmentent pas, là, vous allez empiéter sur vos revenus pour répondre à la question des énergies de fin de l'année. Capacité de se chauffer, etc. etc. Et aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre de gens ne sont pas sur tout ça. Qu'est-ce qu'on met en face? On parlait des moyens. On peut inciter effectivement les personnes à faire des travaux, et là, l'émission fiscale, etc., pour les inciter à faire des travaux et à réduire leur consommation d'énergie, avoir moins de moyens dans la consommation d'énergie que dans le sol. Là, effectivement, mais aujourd'hui, ça, je pense que ce n'est pas suffisamment perçu par un grand nombre de personnes. Et effectivement, tôt ou tard, ça devra, ça pourra, mais ça risquera de ne pas devenir acceptable parce que l'énergie va augmenter, les revenus ne vont pas augmenter. Et là, si on ne fait rien.
Alors, Vincent, Christina, je ne sais plus, oui. Ah bon, d'accord. Alors Vincent. Alors,
moi, je me situe un petit peu. En tant que participant du groupe, comment dire, je pense qu'on a effleuré effectivement ce problème de la pédagogie et de la façon de faire passer les idées, mais je ne peux pas dire qu'on l'a abordé. En tout personnel, je trouve d'ailleurs que la chance de discussion qu'on a pu avoir entre nous pour mixer un peu les cultures. Personnellement, j'avoue que je suis réticent sur la notion de marketing social, en tout cas comme seule chose mise en avant, seule réponse mise en avant devant ce problème qu'on a évidemment bien isolé, qui est celui de l'adhésion. Bien l'adhésion d'un côté, on ne fait pas en cause ce diagnostic-là, cette nécessité au moins aujourd'hui dans le contexte de l'adhésion. Il répond par le marketing social, quelque part, moi j'ai l'impression qu'on se retrouve dans le terrain de l'infantilisation, de l'avant-garde éclairée, et ça ne me plaît pas. Quoi. J'aimerais au moins qu'on réfléchisse aux autres possibilités. J'ai envie de dire pour faire un clin d'œil par anticipation au débat qu'on aura demain après-midi. Je trouve que là, on aurait pu se reboucler de façon intéressante sur les apports qu'on a eus de François Bidet, de tous ces politistes et sociologues que vous avez fait intervenir en début de session, qui nous parlaient de la société individualiste, de l'homme responsable de lui-même, genre repoussé les amarres, se retrouvant dans l'aquarium métropolitain, et obligé de se débrouiller tout seul. Enfin voilà, je trouve que là, il y a un débat qui, quelque part, relève aussi la conception de la démocratie.
Attends, Christina, tu laisses ton tour pour que Laurence puisse dire juste un mot sur marketing social.
Très rapidement. Justement, parce que ce débat-là, on ne l'a pas eu dans l'atelier. Moi, j'ai été très frustrée par rapport à cette partie d'acceptabilité sociale. Et je trouvais que, faisant le constat que l'habitat individuel était le gros morceau, quelque part, des choses à résoudre, entre guillemets, et que rien dans ce qui nous était présenté des plans climat ne s'y attaquait parce que on travaillait sur le patrimoine collectif, sur les transports, etc. J'ai juste posé cette proposition-là, mais effectivement, certainement pas comme la solution, mais voilà, c'était parce que j'étais frustrée de ne pas avoir eu ce débat dans la commune.
D'accord. Alors, il y a Christina, après toi, Josiane.
Alors, vas-y. Je vais apporter un éclairage un peu plus concret sur ce qui s'est dit, parce qu'une partie de notre groupe a travaillé sur l'acceptabilité sociale et économique sur deux cibles de population. Sur deux cibles, c'est-à-dire on a pris la population, les ménages, etc., et on a pris les entreprises. D'accord. Et on a regardé l'acceptabilité sociale et économique des mesures proposées du plan climat Paris, du plan climat 3, dans cinq domaines clés qui sont les postes qui sont les plus émetteurs d'énergie. Donc on a pris les bâtiments, donc bâtiments privés, résidentiels et tertiaires, on a pris les transports, l'agriculture, l'industrie, l'énergie et les déchets. Donc vous avez dans les rapports des analyses et même un tableau qui montre quels sont les effets économiques et sociaux induits par les mesures concrète dans le climat par la loi sur ces types de populations dans ces domaines, c'est ce qu'on a croisé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais puisqu'on parle de financier privé, je voudrais quand même en quelques mots dire quels ont été les problèmes qui ont été rencontrés à Paris pour la financière privée, qui sont les problèmes qu'on a rencontrés dans toute la France, qui sont les problèmes dont on avait discuté dans le Grenelle 1, parce que tout ceci était mis en place dans le Grenelle 1. Alors, par exemple, si c'est pour Paris, c'est 96 000 bâtiments d'habitation parisiens. Et en cours, il y a encore les analyses en cours, parce qu'il faut partir d'abord sur ce qu'on appelle les DPE, les diagnostics de performance énergétique. on en est encore qu'on n'a pas les résultats de ces analyses en cours, surtout les anciens parisiens. Donc, déjà, on parle quand même pour les bâtiments privés, je mets résidentiels, et aussi les bâtiments privés, c'est aussi les glaciaires, 1 300 000 logements en tout, 96 000 immeubles et 280 000 sièges d'entreprise. Ça fait 120 millions de mètres carrés. Bon. Et de ce truc-là, ils sont à peu près, il faut les emmener. L'objectif affiché, c'est de les emmener. En gros, de réduire les émissions de CO2 de 30% d'ici 2020, donc de les amener à 50 kWh pour les constructions neuves et à peu près 80 kWh pour les rénovations. En sachant qu'on part à une différence très forte, mais ça peut aller jusqu'à un logement social, on a des 150 kWh actuellement de mètre carré. Donc c'est une baisse considérable qu'on veut faire. Et les problèmes qu'on a rencontrés, j'en cite quelqu'un parce qu'ils sont emblématiques. Bon, c'est tout d'abord ces problèmes d'incitation. Comment on incite les gens à faire des travaux? Il y a quand même une batterie d'incitation qui a été mise en place. On s'est posé le problème à l'Assemblée. Est-ce qu'on va obliger les gens à faire des travaux? Alors, ça ne serait jamais accepté. Vous vous souvenez de l'histoire des grenouilles? L'histoire de quand on est allé à Berlin, on a dit comment vous faites? Parce qu'en Allemagne, on oblige les propriétaires à faire des travaux. On leur a dit, mais comment vous faites ça? Est-ce que vous mettez en place? Moi, je pose une question, comment vous mettez en place les incitations fiscales, les inciter? Mais madame m'a répondu, je me souviendrai toujours, vous ne demandez pas aux grenouilles leur avis quand vous voulez qu'elles changent des temps. Les Français ne sont pas des grenouilles, vous ne pouvez pas imposer aux propriétaires de faire des travaux. Donc il y a plein d'incitations.
Pour les Anglais, si.
L'incitation, c'est quand même, depuis 6 mois, 30 000 prêts de zéro qui ont été déjà faits, pour une valeur entre 15 000 et 20 000 euros chacun. Alors, les problèmes, c'est que c'était pour le prêt à zéro, les banques ont un petit peu de mal à suivre, maintenant elles suivent, mais les problèmes, c'est qu'elles sont faites notamment par des gens qui ont quand même quelque part la possibilité d'avancer. C'est des prêts de zéro, mais il faut quand même. Il y a un apport à l'ISA, il y a quand même 6-7 millions. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces prêts de zéro prennent de la mise, ça commence, etc. Les gens qui prennent, ils ont aussi une réduction fiscale en même temps. De 40% qui implique la main-d'œuvre aussi, donc il y a des instruments qui ont été mis à côté, mais qu'en fait la cible, c'est plutôt ici le bon moyen. Mais pourquoi aussi? Parce qu'on considère que la plupart des gens qui ne sont pas propriétaires sont dans les logements sociaux. Et pour les logements sociaux, ce n'est pas les pauvres, ce n'est pas les locataires qui doivent faire des travaux, c'est les propriétaires. Et là, c'est encore toute une autre politique. Et les bailleurs.
D'accord.
Donc, tu vois, il y a quand même des. Bon, l'autre gros problème qu'on a rencontré, c'est à Paris, les copropriétés. Énormément de gens sont copropriétés. Comment on oblige les copropriétés à accepter les travaux? Donc, il y a tout un problème des statuts juridiques de la propriété. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ces problèmes ont quand même été un petit peu abordés. Vous les retrouvez dans les rapports. On peut en parler en particulier de chaque catégorie et chaque domaine. Mais il y a eu une tentative d'approche par les esprits sur ce que concrètement ça voulait dire pour les gens.
D'accord, merci beaucoup. Alors Emmanuel, Josiane, Monsieur Laponche et Jean Damien.
Il y a un peu dans le sens de ce que dit Christina, c'est que dans cette affaire, nous, ce qu'on a relevé dans le plan climatique, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà qu'à la base, l'impact financier des mesures n'est pas évalué. C'est-à-dire qu'on met des cibles et on n'a pas quantifié, on met des cibles à des horizons, mais on n'a pas quantifié l'effort financier qu'il va falloir consacrer par rapport à ces cibles. Et du coup, l'arbitrage de fond, l'arbitrage qui est vraiment important de poser, à mon avis, qui est celui finalement d'un peu comment on va équilibrer l'argent public par rapport à un ensemble de politiques, parce que la lutte contre les excès crédit prioritaire, mais il y a d'autres politiques qui sont très importantes. Et cette question de savoir comment on équilibre finalement la dépense publique vis-à-vis de l'ensemble des politiques qu'on veut conduire, elle n'est pas du tout posée. Je prends un exemple sur Paris très concrètement. Sur Paris, il y a une volonté de produire du logement social d'un côté, et il y a aussi la volonté de remettre à niveau le parc social existant vis-à-vis de sa consommation énergétique. Il est très clair que c'est une dépense extraordinairement conséquente vis-à-vis l'ensemble du parc social parisien, et qu'avec le même argent, on peut à la fois construire des logements neufs, faire de la rénovation, et que là, il y a des arbitrages qui, à mon avis, intéressent le grand public et qui sont vraiment, pour le coup, la question de l'acceptabilité sociale, parce qu'on fait de l'argent public, et c'est une banane totalement inexistante. Et à mon avis, c'est vraiment le premier effet.
D'accord. Oui, ça c'est moi, sans lui très important. Ah, c'est pas ton tour.
Il y a un ordre.
Je note, oui. Josiane.
Donc, moi j'enchaîne complètement sur ce qui vient d'être dit à l'instant. J'y ai pensé très fortement quand tu as fait l'exemple du genre Pascalet, où j'ai habité plusieurs années, qui est, je crois, extrêmement intéressant, puisque dans cette région, il y a un habitat individuel très ancien et très développé, mais qui est très, très pauvre, socialement, et de mauvaise qualité. Et donc, la question qui est posée, je fais court. En fait, c'est une question de démocratie, quelqu'un l'a évoqué, de démocratie sociale, mais plus largement de démocratie politique. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut que les choses soient acceptables socialement, alors il faudra poser le problème, non pas de mon point de vue simplement les gaz à effet de serre, etc., mais les problèmes des politiques publiques globalement. Je m'arrête là, parce que c'est très.
Alors, Bernard Lafont. Oui, alors, vous laissez Jean-Damien, puis Michel aussi qui s'était inscrit.
Non, moi c'est juste dans ce sujet-là.
Ah bon, d'accord.
Je trouve l'expression acceptabilité sociale très dangereuse et à bannir. Parce qu'elle recouvre tellement de choses.
Ouais.
C'est toujours utilisé par rapport à un grand chantier dont la puissance publique ou je ne sais pas qui pense qu'il est très bon et il faut que les gens l'acceptent. Le mot acceptabilité est quand même toujours pris dans ce sens. Or là, finalement, je veux dire, il n'y a pas tellement de gens qui sont contre le fait qu'on fasse des maisons bien isolées. Bon, donc. La question est comment la précarité énergétique, donc la dimension économique et sociale d'un plan climat, ou je reviendrai après sur le sens de tout ça, les questions économiques et sociales sont fondamentales. Et si on n'en prend pas en compte, on peut faire des objectifs facteur 4 et du pipeau. Mais là-dedans, ne mettons pas tout ça sous le terme d'acceptabilité sociale par rapport auquel il faudrait convaincre des populations qu'il faut faire telle et telle chose. Donc moi, je trouve que c'est dangereux. Alors, les aspects économiques et sociaux, c'est combien ça coûte. Est-ce que je mets le budget sur ça ou sur autre chose. Est-ce que je m'occupe d'abord de la précarité énergétique, ce qui peut d'ailleurs quelquefois veut dire j'augmente certaines consommations. Enfin, il faut traiter ces questions très sérieusement. Mais ce n'est pas une question d'acceptabilité, c'est une question de faire son métier. Quoi. Vous voyez, donc, moi, je serais très prudent sur ce chapeau acceptabilité sociale qui me paraît recouvrir des choses totalement différentes et dangereuses.
C'était
un peu ce que je voulais dire. Acceptabilité sociale, on a entendu parler aussi, enfin, on a entendu l'expression faire passer des idées. Et puis, alors, effectivement, quand on commence, est-ce qu'on croit à l'effet de serre ? Et ensuite, est-ce qu'on croit qu'on peut y faire quelque chose, etc., qu'on décline ? Moi, je pense que dans chaque maison, il y a un gisement d'économie d'énergie, il y a une rentabilité économique immédiate. Il n'y a pas d'acceptabilité en cause. Si on est capable, avec une expertise qui n'est pas une expertise sur les grands effets sur la planète, mais une expertise qui est capable de dire, votre maison, voilà ce que vous pouvez faire, ça va vous coûter tant, pour économiser temps, c'est amorti, machin. On ne va peut-être pas arriver au facteur 4, mais on va, sans que ça nécessite de convaincre, parce que on est immédiatement convaincu, arriver à faire des progrès tout à fait significatifs. Non, c'est pas dans un monde parfait.
Attendez.
Aujourd'hui, il y a des systèmes d'incitation fiscale qui s'adressent.
Christina.
Non, il n'y a pas besoin d'adhésion. Aujourd'hui, il y a des systèmes d'incitation fiscale. Ça a le mérite d'exister. Je sais, pour en faire partie, que les gens à qui on dit « moyennant tel investissement, vous ne payerez pas d'impôt » se précipitent tête baissée dans n'importe quoi, donc ça marche. Sauf que on fait n'importe quoi. C'est-à-dire que le Pékin lambda qui paye des impôts, qui ne veut pas en payer, on lui dit « mets une pompe à chaleur, tu ne payeras pas d'impôt », comme il fait partie des gens qui payent des impôts, donc il a les moyens de se payer une pompe à chaleur, il se paye la pompe à chaleur. Mais avec le même argent, on aurait pu faire beaucoup plus que l'économie qu'il aura faite avec sa pompe à chaleur. Et donc, ce qui manque, c'est le système de conseil. Et par exemple, moi, je travaille pour une collectivité
je n'ai pas le schéma, mais je crée une SEM, ou je ne sais quoi, dans laquelle je mets des experts, dans laquelle je mets un mécanisme de tiers payant, s'il le faut. Et simplement, mon problème, à un moment donné, c'est peut-être d'alimenter... Enfin, à mon avis, d'abord, ça peut marcher, parce qu'il y a une rentabilité économique effective. Et puis, si ce n'est pas tout à fait équilibré, parce que la rentabilité... Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le taux de livret A, c'est 1%. Hein. Alors, la rentabilité, on n'a jamais été aussi, elle n'a jamais été aussi facile à atteindre en termes d'investissement dans quelques domaines que ce soit, mais en particulier dans l'économie de l'énergie. Donc, je crée une SEM, je fais un système de tiers payant. Alors, évidemment, il y a des problématiques juridiques, etc. Ce n'est pas forcément simple, peut-être un peu de réglementaire. Après, il y a les locataires, les propriétaires. Bon. Enfin, on cherche, quoi, on cherche. Et puis, s'il faut amorcer la pompe, ou s'il faut, enfin, s'il y a un peu besoin d'argent public là-dedans, si ça ne marche pas sans argent public, à ce moment-là, effectivement, il y a une question qu'il faut se poser et où on arrive assez rapidement, me semble-t-il, sur des mécanismes de taxation spécifiques. Bon, voilà. Je n'ai pas la réponse à tout, mais je dis simplement que la rentabilité existe sur plein de choses.
Tu t'intercales.
Plus technique, il y a quand même un système de dit des bouquets de travaux qui prévoit un peu justement qui sont peut-être un rempart justement à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des bouquets de travaux obligatoires où il faut non seulement pas seulement changer la filière et mettre le projet, mais aussi faire des évaluations, plus le transaction à faire dans les départements. Donc ça c'est prévu normalement dans tout ce qui est crédit d'impôt sur certains.
Alors, Michel, puis après Jean-François, Claude, Christophe, Luc, et après on arrête.
Ouais.
Quoi, ouais.
Je pense que c'est un discours politique quand on parle de la sécurité sociale. C'est des politiques, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va compter pendant des années. C'est-à-dire que c'est l'exemple des voitures qui passent sur les autoroutes où on les met. C'est l'exemple des centrales nucléaires, des centrales thermiques, pardon, qui sont magnétiquement, je dirais, nationales, voire internationales. Donc, je dirais, un, il suffit de prendre la coefficient, ça c'est de la règle de 3, et puis on dit, on applique. Après, les populations, en campagne, on se déplace plus que. Sur la ville de Paris, par exemple, dans les grandes agglomérations. Mais ça, c'est rien. Donc, on va passer. Il y a déjà des outils qui existent. Les grands groupes, ils ont mis au point. Aujourd'hui, les constructeurs, on n'a pas parlé suffisamment d'analyse de cycle de vie, qui est, impératif dans cette discussion. Et puis, les grands organismes publics essayent de rattraper les grands groupes. Alors, on est en train de faire des usines à gaz pour savoir comment on va compter. Donc, Grenelle, la prise de conscience des gens a été faite. Après le ménage qui aura de l'argent fera effectivement sa propre chaleur, mais il ne faut pas non plus s'axer uniquement là-dessus. Quoi. C'est-à-dire que après c'est des choix de dire aujourd'hui, localement, vous avez au niveau des communes ou des communautés de communes des moyens d'agir immédiatement. Et les gens, les collectivités de manière générale, ne le font pas. Parce que, il faut déjà compter, il faut savoir si ça va être accepté par les uns ou par les autres. Enfin, moi, je prends toujours l'exemple du radar. Hein. Lorsque des décisions, il y a aussi le rôle de l'État, du pouvoir d'État, de dire c'est comme ça, c'est pour autrement. Dans l'exemple de l'Allemagne, je crois qu'on a quelque part ici un représentant de grandes surfaces commerciales, et qui a dit tous les nouveaux permis de construire doivent être. Et vous auriez voulu anticiper sur vos bâtiments, de dire, ben voilà, ça doit être comme ça, en photovoltaïque. Il y a des règles, et ça peut aller très très vite, ça. Mais on ne le fait pas, on se demande pourquoi. Quoi. En matière de. Un exemple que je connais particulièrement, en matière de recyclage, que ce soit dans le bâtiment ou dans les automobiles, c'est des choses qui peuvent être faites immédiatement. Mais immédiatement, c'est-à-dire quand c'est demain, les normes existent, alors que là, on est en train de faire des usines à gaz. Alors qu'il suffirait d'une impulsion très forte de l'État, parce que c'est aussi le rôle de l'État de dire c'est comme ça, c'est bon. Et à partir de là, déjà faisons par rapport aux travaux neufs, si je puis dire, aux futurs projets. Et puis après, le reste, ça se déclinera automatiquement, parce que les coûts seront diminués de moitié. Les panneaux d'il y a 10 ans, Enfin, moi, je pense que la nature humaine est suffisamment intelligente et pertinente pour faire évoluer les technologies et rendre des coûts moindres. Et puis, deuxièmement, pour reprendre le Pas-de-Calais, c'est une image, enfin, c'est une photographie à l'instant T, mais vous ne devez pas croire que dans 50 ans, les énergies de déplacement seront différentes. On peut espérer qu'en 2050, on aura une voiture, on ne changera plus forcément. Non, mais ça, c'est une photo à l'instant T.
C'est un fil de l'eau qu'ils font. C'est un fil de l'eau.
Non, mais.
C'est important, le fil de l'eau.
Quand tu dis, je ne vois pas comment on pourrait présenter ça au grand public,
non.
Vous
n'avez
pas tenu compte, vous êtes aujourd'hui dans un schéma, vous êtes passé de 100 euros à 200 euros le baril, alors qu'en fait, on se déplacera avec un véhicule, des véhicules, quel que soit le type, on n'aura pas besoin de
prendre. Si quelqu'un a les moyens d'acheter une voiture électrique dans pas longtemps, oui, ça c'est sûr. Mais il faut prendre ça en compte, enfin, peu importe, on va pas, c'est pas le polémique, mais faut pas, c'est pas aussi, on peut pas aller d'un revers de main comme ça. C'est pas ça l'éternel. Il était à 145 dollars le baril au mois d'août l'année dernière.
Oui, mais il y a un moment où on a tous une responsabilité, je dirais, de présentation.
Ce que je voudrais te dire, c'est que c'est 2050, c'est parce qu'on fait joujou, c'est ce que vient de me dire Claire. Mais
c'est pas 2050.
La carte rouge, c'est peut-être pas forcément 2050.
Non, 15.
Ça pourrait,
imagine la flambée du pétrole.
Si juste la question, c'est voilà, c'est un outil de la décision pour dire là, on a un problème. Après, on n'est pas en train de chercher ce qu'on disait tout à l'heure, la véracité à la commune, de savoir si c'est ça. Pour les décideurs locaux et les utilisateurs.
C'est que dans la mesure où il y a de la finance derrière, tout le monde va se mettre à compter, c'est le coût de la centrale qu'on va dire d'aller sur tel département. Donc, derrière, il y a des sous, il y a les collectivités vont devoir payer, etc. L'État, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Donc, chacun va vouloir aller dans son petit domaine, et c'est tout à fait logique, pour, payer le moins. C'est ce que tu disais au niveau de. Prenons l'exemple d'une cimenterie. Il y a des cimenteries, des cimentiers qui sont là, comme on compte, quoi, je veux dire. C'est évident, c'est le coût de la centrale thermique, c'est il y a quand même des grands biens d'équipement, moi ce que je veux dire par là, qui devraient être sortis pour pouvoir, je dirais, être applicables avec des coefficients.
Je crois que c'est. D'ailleurs, c'est une discussion que M. Laponche a abordée. Alors, je voudrais que, juste avant la pause qu'on termine le tour des inscrits là. Mais soyez bref. Alors donc, Jean-François, Claude, Christophe et Luc.
Simplement une observation avec l'exposé que j'ai fait par Charles, je parle par le groupe, notamment la projection de 2050, un scénario. Ça me fait penser que cette semaine, j'ai eu l'opportunité de lire un projet d'article prospectif qui est justement sur un scénario un peu noir de ce type-là, et qui renvoie à la question des politiques publiques, de la préparation de l'avenir. L'article prospectif, l'article il consistait à. Est-ce que les responsables, les dirigeants politiques de l'Inde, de la Chine, de l'Europe, des États-Unis se rencontrent et fassent un point de situation, mais en 2050, dans un scénario assez sombre, et ils s'expliquent l'un à l'autre quelles ont été les mesures qu'ils ont prises de façon autoritaire pour essayer de corriger la trajectoire, parce que la constante de temps, moi je pense qu'il y a un lien avec tout le débat qu'on a sur action publique, action. Privé, voilà la préparation de l'avenir. C'était simplement ça ma réaction. Ils ont vécu dans ce scénario, et je termine là-dessus, ils ont vécu une crise très dure, à la fois énergétique, flambée de prix, crise migratoire, hein, crise énergétique, flambée de prix, et puis reconstruction dans laquelle ils sont tous arrivés à des situations d'action politique, une action extrêmement dure pour contraindre. Un certain nombre d'actions. C'est pas pour se faire peur, mais c'est simplement le débat m'intéressait, en disant le scénario rouge, comment on corrige la trajectoire, de façon anticipée, comme tu l'as dit, il y a différents types de mesures, et je prends ton discours comme action publique assez forte.
Monsieur Laponche, vous retiendrez cette question de la démocratie Alors, d'accord, merci beaucoup. Christophe,
je crois que, je peux rebondir un peu sur l'intervention, mais elle a déjà dit sur la vision individuelle, c'est un enjeu. Il va y avoir des incitations de l'État. Je crois que la majorité des foyers, s'il y a des travaux à faire, il faut quand même sortir des fonds. Et même s'il y a des incitations fiscales derrière, C'est-à-dire, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire des travaux. Un DPE, ça coûte 300 euros, même s'il y a 50% de remboursement de des impôts. Oui, voilà, voilà. Donc, quand même, je dis que sur la maison individuelle, il y a quand même un enjeu de force. Je pense que c'est caché.
S'il vous plaît.
Il y aura une fois. Oui, il y a un chèque au départ. Il y aura une phase travaux parce que c'est important pour la ville.
Allez, on arrête.
Soit incitation fiscale, soit effectivement continuer à sensibiliser les particuliers, et puis surtout avoir des contraintes, des normes sur les futures constructions et de faire en sorte que le parc puisse se renouveler. Mais l'enjeu de la maison individuelle aujourd'hui, on voit l'âge du parc en moyen, il y a encore
150 ans. Ouais. Alors,
c'est 150 ans.
Claude, une seconde. Et Luc, deux secondes.
On avait fait aussi des réflexions sur le CD de Paris. On s'était dit, par exemple, des gens qui avaient des beaux appartements dans des beaux quartiers et qui avaient des ressources importantes. Et on arrivait à vite voir que, par exemple, isoler par l'intérieur, parce qu'ils ne pouvaient pas être isolés par l'extérieur, ça pouvait représenter 5% de perte de surface. Et que donc, ils pouvaient payer, ben, ça ne les incitait pas à le faire. Et c'est vrai que ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que le problème, c'est la constante de temps. Le problème, c'est que soit on va vers l'acceptabilité de tout le monde et la motivation à tout le monde à faire des choses, soit on n'a pas le temps, et si on n'a pas le temps, il faut des mesures fortes, il faut imposer. Il n'y a pas de problème, c'est la constante de temps.
Luc, la contrainte de temps.
Je sais, mais je pense qu'on ne pourra pas faire le détour du retour aux politiques, parce que on parle de la démocratie, on parle de l'acceptation. Je pense que la question du politique, c'est quand même d'élaborer des solutions collectivement, qui, même lorsqu'elles n'ont pas, je dirais, d'effet toujours collectif, individuellement, en démocratie, c'est quand même une élaboration collective. L'élaboration collective ne consiste pas simplement en l'acceptation de choses qui sont construites ailleurs que par des citoyens, parce que, y compris la question du scientifique, quand on vous écoutait Hervé Le Truc, à un moment donné, la question, elle est citoyenne. Moi, j'ai une compétence en tant que climatologue, mais les choix de société, ce sont des questions de citoyenneté, et il n'y a pas de légitimité démocratique citoyenne qui s'imposerait, il n'y a pas de diplôme pour ça. Moi, je voudrais faire un parallèle avec la question de l'automobile, parce que dans la construction, on a le sentiment quelquefois que le propriétaire résidentiel, modeste, serait renvoyé à sa seule responsabilité. Il y a un article dans les Échos de ce matin qui parle de l'Aquitaine, des communes à la région, le covoiturage fait l'objet de toutes les attentions. Qu'est-ce qui fait que le covoiturage s'organise? C'est qu'il y a des collectivités locales, des employeurs et autres, qui s'abonnent à des sites et qui aident à organiser une réponse collective. Parce que quand on prend sa voiture pour aller travailler, c'est justement bien souvent on est tout seul face à son problème de mobilité et qu'on n'a pas autour de soi la réponse collective. Donc même là, si c'est une réponse qui ne passe pas par la mise en œuvre du réseau de transport collectif et autres, c'est une organisation collective. C'est donc une action politique qui consiste à formaliser une réponse pour laquelle l'individu n'est pas laissé à lui-même. Et je crois que la question de la résidence est de même nature. Et j'ai à l'esprit ce qui s'est inventé dans les années 50. Dans les années 50, il y avait un problème important de logement et se sont développés dans certaines villes, des quartiers ouvriers, des systèmes coopératifs, on appelait ça les castors. Et les gens, avec les aides de la CAF, acquéraient le terrain, s'aidaient entre eux pour construire leur logement, etc. Donc on n'était pas dans une réponse qui était forcément d'un habitat collectif, puisque l'issue de ça, c'était bien leur habitat individuel, mais il s'agissait néanmoins d'organiser collectivement et solidairement la réponse à un défi qui était important à l'époque, et vous avez eu la connaissance de la lecture qu'on va faire, le défi du logement de l'après-guerre. Donc si je dis ça, c'est parce qu'il faut qu'on raisonne aussi à une large échelle sur la responsabilité des institutions, des collectivités territoriales, des structures d'aide à la famille, etc. Comment tout ça peut s'organiser? Je pense qu'on a été capable d'imagination et d'innovation à certains moments, mais ça veut dire qu'il faut que le débat politique porte sur la globalité. Or, aujourd'hui, on est quand même dans un souci, c'est qu'on voit bien l'interconnexion des territoires, des échelles, et qu'un certain nombre de décisions se prennent dans la segmentation. Le plus bel exemple, c'est la question de la réforme territoriale, où tout le monde constate l'hérésie intellectuelle qui consiste à poser la question des ressources avant celle des compétences. Et c'est d'autant plus inconcevable. Aujourd'hui, on voit bien que la question de la continuité des échelles de territoire et des pertinences entre les décisions de fiscalité locale et de fiscalité nationale sont plus jamais articulées. Et si on n'a pas cette vision globale. Et cette globalité-là, pour moi, ça s'appelle en République la démocratie. Et si on n'a pas cette conception-là, effectivement, dans toutes les périodes de l'histoire, lorsqu'on n'était pas en capacité d'affronter les avertissements face à des catastrophes, et le XXe siècle a été un siècle de catastrophes politiques. Donc, la catastrophe environnementale, peut-être qu'elle est devant nous. Tirons les leçons des catastrophes du XXe siècle que nous n'avons pas su éviter, mais tirons-les dans le sens d'une affirmation de la démocratie comme étant la seule manière de
relever
ce défi. Et ça, c'est un vrai problème.
Alors, on va suspendre, mais donc on voit bien qu'il y a deux positions, hein, si je peux dire. Il y a la position plutôt, disons, des démocrates et la position plutôt non pas des autocrates, mais enfin de ceux qui pensent qu'on peut jouer du pragmatisme assez rapidement. Je ne suis pas certain, en réalité, que ces deux positions soient si inconciliables que ça. Hein. Je pense que c'est une question, en réalité, d'économie, si j'ose dire, du système.